Spotify.
Hey, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour, en dérapage contrôlé, quoi.
Bienvenue dans Ça va bien se passer. On est un petit peu à la bourre aujourd'hui. C'était le temps qu'on mette les feuilles dans l'ordre.
C'est le quart d'heure quercinois.
C'est ça, c'est le quart d'heure du Quercy. Et ben donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on attendait quelqu'un en fait. On attendait Joe depuis tout à l'heure, Joe qui venait pas, qui n'arrive pas. On s'est dit bon, on commence pas.
Oui.
Et on commence. Vous savez où il est?
Non.
Alors il a disparu.
Merde, on n'a pas de Joe.
Pouf.
Pouf.
Il s'est envolé.
Bon ben on va faire l'émission sans Joe.
C'est pas dans
Joe,
ses habitudes.
Ben ouais, en général il prévient. Non, c'est un peu inquiétant.
Il est plutôt studieux.
C'est lui qui fait studier les autres.
Hein. Ouais, ça, c'est vrai, ça, on peut le dire.
Ça va.
Alors, mais aujourd'hui, de quoi qu'on va vous parler, à travers nos divers chroniques, on fera des tours entre le salon de l'agriculture, entre la Chine. Et aujourd'hui, il y en a un quand même qui a été super comique cette semaine. Merci Olivier.
Ouais.
Merci.
On ne peut être que reconnaissant.
Olivier.
Par contre, je veux pas dire. Il y a quand même un cri de colère sur Olivier. T'es en train de foutre le travail des chroniqueurs drôles en l'air parce que tu es en train de faire le boulot à notre place.
C'est ça. C'est quoi soit il nous sublime, soit il est en train de nous damer le pion, soit
Sympa. Il nous donne de quoi lui taper un peu sur la tête.
Par contre, j'aimerais bien savoir qui fabrique son LSD, moi. Si quelqu'un a une information, vous pouvez la balancer sur le chat ou sur le.
Appelle le mec qui écrit ses discours, je pense que c'est lui qui doit avoir un super fournisseur. Mais alors moi je voudrais d'abord commencer par vous parler de ce qui en soi enflamme les médias et enflamme la vie de nos chers Français, le salon de l'agriculture. Non mais quand même, ça fait 59 ans que ça dure les gars, ça fait 59 ans, enfin quand je dis que 59 ans que ça dure...
Ça enflamme les zoophiles. Ouais.
Ça fait 59 ans, c'est pour le salon, et quand je dis que ça dure et que ça dure longtemps, je parle du salon de communication du troupeau gouvernemental et autres sbires. Tout le troupeau est là, vous remarquez. En 1970 déjà, les gars, on montrait à la télévision, au salon de l'agriculture, tâtant de la vache et autres bestiaux, verre d'eau rouge à la main, le président Pompidou et Jacques Chirac. À l'époque, il était quand même jeune secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Quelques mois plus tard, il sera nommé ministre de l'agriculture. Bon, il devra attendre encore 25 ans avant d'atteindre l'Élysée. Bon, après, il y a eu Mitterrand. Lui, il n'était pas adepte du tout des étables médiatiques. Il n'y a été qu'une fois sur 14 ans de mandature, et encore. Car en fait, il n'y a même pas été pendant la mandature, il y a été à la pêche aux voix pendant la campagne présidentielle. Par contre, son successeur, Jacques Chirac, lui, il a adoré. Il en a fait sa marque de fabrique. Avec les aventures de Chirac au salon, faut avouer que les médias, eux, ils étaient là aussi pour jouer le jeu. Et des images de bouse fraîche, de groin de cochon et autres poules bien brossées. Des images qui cachaient bien quelque chose toutefois, mais pas trop quand même. Il fallait être bien con pour pas voir ce que ça cache. Bon, revenons au show présidentiel et à Chirac. On se rappelle tous qu'après Mitterrand, après les élections de 95, le loup est entré dans la bergerie, obligeant alors les moutons à voter pour le chasseur. À l'époque, le flux médiatique de l'info était ce qu'il était, mais tout de même, on retient un Chirac à l'aise, comme un poisson dans l'eau, comme un coq dans son poulailler, au salon de l'agriculture. Faut dire qu'il en parcourt les travées depuis ses premiers pas en politique. Il avait coutume d'y passer plus de 4 heures. Bon, maintenant, quand même, Macron, il y passe 14 heures. Ça dure maintenant. D'année en année, Chirac a perfectionné son style et sa gouaille. En 2005, il était au sommet de son art. Alors que, dans son gouvernement de l'époque, rappelez-vous, le gouvernement Raffarin III, le ministre Hervé Guémard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a été contraint de démissionner à la suite de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Guémard. Le chef d'État, donc, n'était pas venu pour ça, non, mais pour le show. Et les médias déjà étaient là pour montrer de belles images cartes postales d'humains par milliers et d'animaux attachés courts pour se faire tâter. Et c'est ainsi que main dans la main, avec les médias de l'époque, face à un bœuf, verre de pif à la main, tranche de fromage dans l'autre, on voit notre président de l'époque s'exclamer « Ce ne sont pas des bovins, ce sont des chefs-d'œuvre ». Et hop là, la machine Chirac se rôde. Les problèmes, on verra plus tard. Et les Français, faut l'avouer, ils aiment bien ça, ces petits moments de ruralité en capitale, avec la légende des enfants qui n'ont jamais vu de poule de leur vie. Et le même Chirac, à l'époque, était quand même aussi empêtré dans un autre dossier. Vous vous rappelez? Le référendum européen. Mais là aussi, plutôt que de parler politique, parlons bouffe. Ça fera bien au JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut. Et les médias s'empressent alors de relayer cette phrase. Un peu de reblochon, ça n'a jamais tué personne. Lancé par un président alors que nous sommes en plein débat sur le traité constitutionnel européen, acte d'antidémocratie dont on se rappelle tous, mais on aime bien ça, je le rappelle, nous les Français, c'est chose simple de la vie, et faut dire qu'il est quand même bon, le vin français. Et après lui, c'était qui le président, vous vous rappelez, en 2007? Celui qu'on voudrait bien oublier.
Sarko.
Eh ouais, on lui a dit quand même une sacrée phrase.
Pardon.
On lui a parlé. Vas-y. Dès qu'on dit Sarko, voilà, on ne peut pas s'empêcher. Mais bref, il y a une punchline de lui qu'on lui doit, celle qui a marqué son règne. Si je vous dis, casse-toi, pauvre con. Jeter un mec qui refuse de lui serrer la paluche, qui lui a dit « me touche pas, tu vas me salir ». Ce qui, au salon, toutefois, est foncièrement possible. Car le total égout pour les animaux encagés dans des parcs dignes d'Auschwitz, en mode Euro Disney, bah y en a pas. Laissant les animaux dans leur merde, comme le peuple d'ailleurs, qui était déjà bien dans sa merde, lui aussi avec Sarkozy président. Bref, à trop de parler des gens nauséabonds, on va leur faire publicité, passons à la suite s'il vous plaît. Donc, après le règne Sarko, l'hyper-présendialisme médiatique devient de vigueur. Et c'est ainsi que François Hollande essaiera de reprendre la succession, et on lui doit en 2013, près d'un an après son élection, une punchline aussi molle que son regard de bovin, adressé à une petite fille lui demandant « Il est où Nicolas Sarkozy ?» Et notre flambie nationale qui lui répond « Eh ben, te le verras plus,
dans ton cul !»
Ok, donc tout ça à côté d'un Benoît Hamon et d'un Stéphane Le Vol qui étaient hilar, histoire d'amuser la galerie. Bon, Benoît Hamon, il rigolera moins par la suite. Hein. Notons que la visite de Hollande en 2016 n'était pas si bon enfant que prévu, hein, c'était pas que ça. Alors que la France était pendant ce temps-là en pleine crise agricole, entre une régulation des marchés qui déconne, des agriculteurs qui criaient déjà famine. D'ailleurs, Hollande, hué par ces derniers, eh bien, il était impossible pour les agriculteurs de l'approcher. Étant donné que cette année-là, il y avait plus de gendarmes que d'éleveurs sur le salon. Eh ouais. Pendant qu'on entend au loin des « Hollande, démission !» Une journée, du coup, qui finira avec le démontage du stand du ministère de l'Agriculture par des militants, des CRS qui arrivent et qui gazent tout le monde, les vaches, les poules et les moutons au passage. Alors au salon de l'agriculture, les années passent et suivent avec les différents prétendants au trône de France qui vont faire leurs emplettes de voix devant les projecteurs des médias relayant chacun à sa manière les différents spots promotionnels des candidats. Et si toutefois Jean-Marie Le Pen était sifflé et hué dans ce salon, le langage populiste médiatique de l'extrême droite alimente si bien le troupeau que désormais, c'est comme des moutons que l'on accepte que Marine Le Pen amène le pire petit à petit. Notons juste que Mélenchon, lui, eh ben, il va plus au salon depuis quelques années. Alors quand je dis il y va plus, hein, n'allons pas croire qu'il n'y a jamais été, il n'y va plus. Il y allait bien au début quand il avait besoin lui aussi d'aller à la pêche comme ça, à la popularité. Alors il y va plus depuis quelques années, allant sur le terrain pour promouvoir un autre modèle d'agriculture, dit-il. Car le modèle proposé par la FNSEA est certes bien loin de la carte postale agricole. Vous savez, la petite ferme, le pot de généranium rouge accroché avec un arbre dans la cour, au-dessus de la niche du chien, sans oublier les trois vaches, paissant tranquille, mais un coup de fil.
Ah.
Allô ?
Ouais.
Oui ?
Salut.
Bonjour.
Salut, c'est Joe.
Salut Joe.
On t'aime donc, bonjour.
Mais Joe.
Mais t'es où Joe? On t'attend là.
Ah, attends, deux secondes, je peux pas parler trop fort, je suis en câble, attends, deux secondes. Hein.
Ça va?
Ouais, je fais le maquis là.
Mais comment ça t'es au maquis? Mais attends, on t'attend. On a commencé l'émission en retard, du coup on t'attendait.
Mais vous êtes pas au courant là, c'est la guerre.
Comment ça c'est la guerre?
Ah.
Bah ouais.
La guerre de quoi?
Au courant, c'est la guerre. Hein.
Contre quoi?
Ah ouais, là il y a des militaires qui viennent, qui arrivent à Cahors.
Ah bon?
À Cahors, qu'est-ce qu'ils viennent foutre à Cahors?
C'est la guerre à Cahors?
Opération Orion, les gars, vous êtes pas au courant de ça?
Non.
Orion,
c'est quoi?
Vas-y.
C'est des aliens de l'espace.
Orion, ben ouais, il va y avoir des militaires partout cette semaine.
Non.
Putain.
Moi, je me suis barré.
Oh, bah sympa, mec. T'as plus de dire et de proposer, enfin bon, j'en sais rien. L'autre, il a déjà un chat.
Putain, le déserteur.
Vous allez vraiment rire. Vous allez rire parce que je vous jure que c'est vrai.
Ah ouais?
Vous pouvez compter sur l'armée, hein. J'ai vu un tank sur l'autoroute, en panne, les gars.
Ah ouais, ça démarre bien,
ouais,
là.
Ouais, je vous jure que c'est vrai, c'était à l'instant à Montauban, et il était sur un remorqueur, un truc qui était en train de le transporter vers le garage proche.
Cargare et place,
Je pense qu'avec ça, on peut être rassuré.
Ah,
ouais, bah, l'opération Orion, c'est, vous savez ce que c'est ou pas?
Bah non, on compte sur toi là, du coup tu vas nous en parler maintenant que t'es là.
C'est une opération qui simule une guerre grandeur nature. Rien que ça.
Grandeur nature.
Et nous, comme en Ukraine.
Et nous on est figurants, on fait quoi? Non.
Ouais, bah c'est en fait c'est une sorte d'attaque, je sais pas quoi, une attaque.
Imaginaire.
Un pays imaginaire qui a lieu sur notre territoire. Donc heureusement Orion est là.
Ah.
Alors
c'est
Orion,
qui, c'est qui Orion? C'est
Vous savez ce que c'est Orion ou pas?
Non.
C'est
non.
Quand même une, c'est quand même le nom d'une constellation. Hein.
Oui, voilà, ouais.
Alors,
oui,
alors, ça, c'est très simple. Vous regardez dans le ciel un amas d'étoiles qui forme un énorme fuck.
Un F majuscule.
Ouais, parce qu'en fait, ces opérations là, c'est payé avec nos impôts évidemment, hein, et ça coûte 413 milliards d'euros quand même, hein, l'armée, hein. 413 milliards d'euros. Pour les 6 prochaines années, c'est en augmentation de 40%. Bon, c'est un petit budget sympa quand même. Hein.
Ouais, ça va, j'en ferai des trucs.
413 milliards d'euros, c'est quand même un an de coq pour Cyril Hanouna quand même. Hein, faut dire.
Et pour Pierre Palmade.
Sur un an, ça fait à peu près 68 milliards et des brouettes par an. Bon, en comparaison, l'éducation nationale, c'est 59 milliards. Donc, voilà, bon, ben.
C'est pour ça qu'on a des militaires cons.
Voilà. Ouais,
c'est pour ça qu'ils sont 4 fois plus bêtes.
Ouais, voilà.
Donc voilà.
Alors t'es où là ?
On va avoir déambuler des soldats tranquillou bilou. Voilà, il y aura des tirades blancs, il y aura des hélicos. Donc, vous en faites pas, hein, ça va bien se passer. Hein.
Mais t'es sûr ? Mais t'es où là ?
Inch'Allah.
Ah,
du coup,
je suis...
il est où ton maquis ?
Ah, je suis caché, là, je suis dans les Pyrénées. Je peux pas vous en dire
t'es
plus.
T'es planqué,
désolé,
donc.
Non, je suis désolé.
Ouais, c'est caché. Un peu lâche hein, quand même. Hein.
Bah ouais, évidemment.
Et tu nous ramèneras une boule de neige s'il y en a ?
Alors, je sais pas, parce que c'est. Il paraît que c'est en voie de disparition.
Selon le rapport du GIEC.
Tu vois pas de la. Tu vois pas de la case, non.
C'est le truc blanc là.
Ouais, le truc blanc qui est froid.
Ouais, le truc blanc.
Prends-moi du tabac, une bouteille de vodka, s'il te plaît. La semaine va être difficile.
Bah surtout pour affronter la guerre, les gars. Parce
et ramène une petite gnôle aussi, une petite gnôle du pays là. Il va y avoir une petite eau de vie. Ou...
Ah moi, je fais pas la guerre à Jean, c'est hors de question.
C'est pas à Jean, on t'a dit, c'est à Cahors.
Ça me fait penser tout ça.
J'y connais rien en géopolitique, moi.
On va former nos futurs guerriers bientôt. Vous êtes au courant de ça ou pas ?
Non.
Alors, j'ai cru en entendre parler un peu.
Ça s'appelle le SNU. Alors c'est super drôle, on dirait un syndicat, le nom d'un syndicat, tu vois, de l'éducation nationale.
Le SNU.
Ou
ouais, légèrement. Ouais.
Mais non, le SNU, c'est le Service National Universel. Alors c'est un peu comme c'est un mélange entre le service militaire et un cirque, tu vois. C'est un mélange des deux.
Ah mais c'est là où ils ont des petits polos blancs et tout, bleu,
petits polos
bleus.
Polos blancs avec des ronds là, et à l'intérieur du rond il y a marqué SNU, parce que t'as vu c'est trop bien le service national.
C'est tendance.
Il y a quand même, alors moi j'ai quand même regardé, je suis allé sur le site du SNU, je me suis poilé.
Vas-y raconte.
C'est vraiment, je sais pas si j'ai envie de chialer ou rigoler quoi, je sais pas, j'ai fait un peu les deux parce que.
De chiagoler.
Non j'essaie ça, c'est chiagoler. Le SNU bientôt obligatoire, alors ça va être expérimenté. Dans 10 départements, obligatoire hein, pour tous les jeunes, hein, les mineurs, voilà. Ils vont pendant quelques jours dans un centre, tu vois, de SNU, habillés comme des ploucs, et ils apprennent. Ah, ils apprennent des trucs super. Oh, ils apprennent des trucs super. Lever le drapeau.
Waouh.
Porter un drapeau.
Waouh.
Apprendre la Marseillaise.
Si tu me demandes de lever un drapeau, je ne sais pas faire.
Bien,
genre...
C'est trop bien.
C'est hyper utile. C'est
franco-française, voilà.
Wow.
Et ils se font vacciner
c'est
aussi.
C'est pas le Front National qui a voté ça. C'est
et il leur explique quoi que le drapeau français c'est la voile de ce bateau dans lequel nous sommes tous embarqués. Et tu vois, c'est un truc dans le genre, non, j'imagine.
C'est ça. J'ai la journée type sous les yeux. Oh là 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 là, c'est rigolo.
Voilà. Alors à quelle heure on se lève au SNU ? C'est quoi une journée type ?
On se lève à 7h parce qu'on n'est pas des feignasses. Hein. Le SNU, c'est d'abord...
Allez, debout, bande de sale jeunesse de merde.
Chef.
La valeur travail maréchal feignant, c'est pour toi celle-là. Hein.
Ah.
7h. Hein.
Ouais.
Bon, ouais. Lever des couleurs, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, y colorie des trucs.
Lever des couleurs, c'est la levée du drapeau.
Ouais, c'est ça.
Le matin.
Entre 8h et 8h15. Hein. 8h15 minutes de levée de drapeau. Hein. Bravo. Ouais.
Rassemblement devant le drapeau.
Après, activité.
Et chacun, il a son petit drapeau à lever ou non, il veut...
Et attends, écoute ça. Entre 9h30 et 12h30, pendant 3h, je sais pas ce qu'ils foutent. Activité, exemple, sensibilisation au risque sur ma route et au premier secours. Bon, je sais pas, sur ma route, c'est pas une chanson de Maître Gims.
Alors, non, en fait, moi j'en ai un peu entendu parler, c'est parce qu'il y a une carotte au SNU. Je comprends le. Alors, oui.
Ah, il y a du pognon.
Il n'y a pas qu'une carotte, mais tu sais, c'est comme pour faire avancer l'âne avec la carotte, là. C'est pas la carotte qu'on prend de l'autre côté. C'est la carotte qu'on met devant.
Ah oui, d'accord. Ah oui, celle-là.
C'est parce que. Ouais, c'est celle-là. Et donc,
c'est pas la carotte 9-3.
J'ai entendu parler qu'ils promettraient. Ils disent qu'ils promettraient le permis à ceux qui feraient le SNU.
Ah oui.
Voilà.
Voilà. Il y a un peu du pognon quand
même.
Il
y a la carotte.
Ouais, ouais.
Non, c'est pas mal. C'est une belle carotte quand même. C'est pas mal.
C'est pas mal comme carotte.
Donc, il faut que tu. Ouais, faut qu'il soit un bon titre.
Putain, et on va commencer à aimer ça. Fais gaffe avec la carotte. On est en train de se faire avoir, nous aussi, déjà, ça y est.
Non, mais en fait, voilà, il faut imaginer un peu une colo, mais une colo en enfer, quoi, tu vois, où on chante la Marseillaise le matin, où on apprend la Startup Nation. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est Full Metal Jacket en version.
Leurs calages nous font pas peur, nos polos bleus sont bien meilleurs.
Les militants nous font pas peur, on leur tapera dessus, ça fera meilleur.
Et le mot d'ordre, c'est pas.
Vous croyez pas si bien dire,
ouais,
j'ai regardé des vidéos de ce truc-là. Et c'est hilarant. Je vous conseille vraiment, vous avez envie de rigoler le matin, regardez une vidéo du SNU. Alors, tu vois des jeunes à la montagne en train de faire un dab, tu vois, sur un truc, un morceau de rap ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi.
C'est comme les bonobos, quand tu les regardes en vidéo, ils se tripotent et tout, ils se mettent des petits doigts par-ci.
Non.
Mais le mot d'ordre, et le mot d'ordre, c'est pas la patrie, c'est ta famille. Non, c'est pas ça le mot d'ordre.
Je pense que c'est un truc comme ça, ouais.
Non, c'est la patrie, c'est ton travail.
Ouais, et ta famille, et ton travail, et ta mère, et ton père. Ouais, c'est ça, ouais.
Et après, ben voilà, écoute, moi j'imaginais un truc. Et si on faisait un SNU, là, nous, là, on fait notre propre SNU, les gars.
Un SNUL, on fait un SNUL.
Ouais. Ben, un truc de gauchos,
quoi. Service national d'utilité limité, quoi.
Le SNUL. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais.
Ben le patriotisme pour les hules.
Avec des activités ludiques. Un petit chamboule tout avec la tronche du ministre du Travail. Ah ouais. Non, merde.
Oh là là, c'est déjà fait, non.
On fout ta cagoule, tu joues au foot avec des cagoules.
Et on apprend ce mat Starship Trooper, Full Metal Jacket.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais.
Et Apocalypse tout à l'heure. Apocalypse, c'est comme Apocalypse Now, voilà, mais voilà, tout à l'heure.
Plus tard. Je peux conseiller aux auditeurs
un peu plus tard.
Un super film que j'ai vu récemment. Captain Fantastic.
Ouais.
Ah oui, il est rigolo. Ouais.
Ah, il est très très, ouais, bon, ouais. Très très bon. Alors justement, un film anti-militariste très intelligent, tu vois, c'est une famille qui est un peu, on va dire, à l'écart du monde, tu vois, et qui apprend, voilà, à survivre.
Qui ne jure que par Chomsky, ouais.
La journée de Chomsky. Alors, il célèbre Chomsky, voilà, un jour dans l'année, c'est excellent. Et voilà, très très bon film avec des valeurs, voilà, qui me plaisent bien.
Ouais, ouais, il est drôle, la musique est bien, il y a Viggo Mortensen qui est quand même un sacré acteur, un sacré poète et musicien,
et
aussi,
gosses,
soit dit en passant.
Les gosses sont géniaux parce que justement, ils évoluent dans un milieu. Bah, on va dire en dehors.
Ah.
Interruption, il s'est fait choper.
Le SNU,
je crois qu'il y a
les
militaires qui.
Il s'est fait égouler.
Ouais, il s'est pris une bombe là.
Ah, il va se faire fiché.
Il s'est fait rouler dessus par un char.
J'ai peur. Oh merde.
C'est con.
Il a pris une balle de sniper. Bon, désolé, hein, c'est la guerre, c'est la guerre. Hein, c'est comme ça. Hein.
C'est le direct.
Pourtant, on l'aimait bien, il était cool. Hein.
C'est les aléas de la guerre, comme on dit. Hein, de la guerre en direct.
Du coup, je vais lui rendre un petit hommage dans la chronique alors, peut-être.
On peut insérer
deux, trois lignes.
C'est ça. Un reporter comme
sans
ça en
frontières.
Déplacement, le pauvre, zut. Peut-être qu'il va
non, il est pas mort.
Ah, mais t'es pas mort en fait.
Il a de la ressource.
Mais on pensait que c'était les militaires qui, hop là, ils t'avaient snipé.
On allait faire le buzz là, tu te fais assassiner en pleine intervention, en plein duplex, c'était le top.
C'était sympa, franchement. Et les gars, on aurait eu des auditeurs, là, on aurait eu un max d'auditeurs, on serait passé sur France Info et tout. Bon.
Attends, on est sur Antenne Doc. Bon, t'en étais où?
Bah ouais. Comment?
Je sais plus. Tu disais quoi?
Qu'est-ce qu'on disait déjà?
On en était où là?
On disait que c'était la guerre, les gars.
Le SNU.
Je vais préparer cette journée, on se la prépare tranquillement. Et puis quand je reviens du maquis, voilà quoi.
Mais tu vas revenir quand même.
Vivant, tu reviens vivant, tu reviens pas
parce que
morceaux,
c'est dangereux le reportage de guerre, je veux pas dire. Mais
non, parce qu'en fait, on a un objectif avec les gars quand même, c'est de tenir plus longtemps que les Beatles, alors je suis obligé de revenir.
Bon, okay. Déjà, on a plus vendu que Marlène Schiappa et on est plus écouté que BHL.
C'est ça.
Yep.
En fait, tu reviens quand la guerre sera finie, à quelle heure?
Tout va bien pour nous.
Tu reviens quand la bataille sera terminée, hein.
Ben non, mais en fait, je vais essayer de choper un tank, là. Je sais pas, il y en a sans doute un autre en panne, là, bientôt.
Mais tu veux pas les dépanner, peut-être ils ont juste un problème de batterie, je sais pas.
Ah ouais, avec ma Clio, je vais essayer de rallumer ça. Ouais.
Ben oui.
Bon, ben Joe, bon courage dans le maquis.
Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir des nouvelles,
c'est
on s'inquiète
sympa
un
parce
peu.
Que, ouais, voilà.
T'inquiète, ouais.
Et n'oublie pas la petite gnôle en revenant.
Et les clopes au pas de la case.
Ah ouais, ramène du tabac.
Alors,
ouais.
Alors une gnôle, un drapeau ou pas? Non.
Non, prends du tabac plutôt. Non,
ouais, non, c'est bon.
Ok.
On préfère fumer.
Allez, ok. Ok, les gars, bon, je vous dis à bientôt. Hein.
Et on t'embrasse très fort, Johan.
Et embrasse le maquis, alors. Et à bientôt. Ciao.
Salut, ouais, Joe.
Au revoir, Joe.
Attends. Quand je disais le maquis, là, qu'on se méprenne pas, moi je suis dans un resto japonais, là.
Ah ouais.
Non, te dire qu'on t'a roulé dans une feuille d'algue et on t'a mis dans du riz.
Okay.
Non mais merde.
Un rouleau de printemps, dis donc.
Ah, t'as des morceaux de feuilles d'algues plein les dents et tout. Ah ouais, bon. Okay.
Ouais,
Bon, mais bon appétit, okay. Maki.
Je fais de Maki, ouais.
Allez, à bientôt.
Allez, bisous.
Ouais,
bisous.
Bonne bourre.
Bon, mais ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Joe.
Ah, bah, on avait eu peur, hein, non, d'une pipe.
Bordel de. Bref. Ouais. Bon, alors, moi, j'ai été à ce salon de l'agriculture. J'ai été justement à Mélenchon qui faisait semblant de pas y aller. On m'a coupé. Enfin, bref. Donc, bon, ben voilà, je l'ai dit. Et mais parce que, comme. Donc, j'en étais à cette carte postale. Rappelez-vous, là. On était dans cette ferme merveilleuse en France. La ferme avec les trois vaches, le petit mouton, les deux poules, deux, trois pieds de tomates qui poussent comme ça. Un peu de tout, mais pas beaucoup d'une seule chose. Ah ben non. Ben non, c'est pas ça le salon de l'agriculture. C'est pas ça la France. Ce qui est top en France, c'est des fermes de 1000 vaches, des champs de monoculture et plein de bons produits dedans. Parce que les abeilles, ça sert à rien de toute façon. Non mais sans blague. Faut produire les mecs, faut bouffer, faut consommer, nom de Dieu, de bordel de merde. Mais allez pas nous prendre la tête avec votre souffrance animale. Un esquimau vegan, les gars, c'est quoi? C'est un esquimau mort. Alors zut quoi, vos trucs de végétosaures, merde. Bon, pardon, je m'emballe un peu. Comme la vache d'ailleurs qui a été découpée en steak qu'on a croisé au salon avec les petits ce week-end avant d'être emballée dans son joli petit polystyrène recyclé. Le salon de l'agriculture, c'est pas ça. Non, c'est les valeurs de la France, du pinard et du fromage. Comme Manuel Valls, rappelez-vous, qui avait abusé un peu de vin dans sa visite en 2015 face aux caméras des médias. Parce qu'être pompette à l'époque, ça faisait bien pour être plus proche du peuple. Et ouais, donc à dire qu'on y est tous des pochetrons, nous les Français. Vu que tout le monde se marre bien devant des stands issus principalement de la FNSEA, défendant un modèle agricole plus industriel que paysan, que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, que pour soigner ton rhume, mange du porc aux antibiotiques, vive les OGM et Monsanto, sans qui faudrait désherber à la main. Et je vous rappelle, quand je parlais des abeilles, ça sert à rien. Puis quand même, il y a les moustiques aussi, donc un peu de pesticides. C'est pratique. Donc depuis, change, depuis tout ça, depuis 1970, je disais tout à l'heure, depuis rien ne change, voire ça évolue. Et cette année, bah comme les autres, le salon de l'agriculture est une foire politico-médiatique avec la retraite comme toile de fond. Mais pas de quoi décourager Jupiter, filmé devant une vache en train de bouser, le tout passé devant TF1 à 13h. Filmé aussi en train de convaincre d'un paternalisme bien à lui, du bien fondé de la réforme, le tout sous fond de huées et autres cris. Des images bien souvent coupées par les monteurs des chaînes médias qui ont plus, de plus en plus de travail vu que nos représentants politiques sont de plus en plus hués pendant qu'on trouve une vache mignonne.
Il faut couper de plus en plus.
C'est ça. Alors que quand même la vache, je vous le rappelle, elle est attachée court à une barrière dans une cage de la taille de son corps à peine, pour être maintenue ferme afin de pouvoir être palpée tranquille par les badauds. Elle est pas mignonne ma vache bondage, hein? Les enfants, vous en voulez une tranche? Mais revenons, Macron au salon. N'oublions pas les images de ce militant écologiste, neutralisé virilement par le service d'ordre présidentiel, tiré par les cheveux et tapé. On ne saura pas quel était son message, mais Jupiter l'invite à venir à l'Elysée discuter plus tard. Il y a cet autre militant qui lui aussi voulait l'alerter sur la crise mélatique, climatique. Mais là, prof, bah pareil. On préfère d'autres discussions plus consensuelles, avec des personnes triées sur le volet pour ne pas donner une mauvaise image de la balade agricole urbaine. Il est important de rappeler que les images des médias de masse sont trompeuses. Quand on veut montrer une image de paix, on connaît leur manière de faire. On vide l'espace public de son public. On y met trois badauds bien brossés et hop là, clic clic, carte postale. Tranche de pâté à la main, huître dans l'autre. La tranche de clacos qui arrive au stand d'après. Impossible pour quiconque d'approcher sa sacro-sainteté. Et cette année, le service d'ordre était réellement plus important que d'habitude. Et qui dit retraite, dit aussi Elisabeth Borne, en balade dans la plus grande ferme de France. Note pour plus tard, c'est qui d'ailleurs les animaux de la ferme, hein? Si les parades étaient censées être millimétrées, il y a quand même une image volée par Quotidien qui nous montrera quand même une Madame Borne à la sortie d'un stand argoulésien, la bouche encore pleine de pâté, expliquant à son équipe « Bon, vous avez compris les gars, ce qu'il faut pas faire, hein, faut pas me faire bouffer du pâté de cerf toute la journée. Hein. » Le tout entouré d'un service d'ordre tellement important qu'il éloigne encore plus des Français en visite au salon, d'un pavillon à l'autre, Madame ne marchera pas cette fois-ci, elle se déplacera en voiture, des fois qu'elle devrait répondre à la question gênante, que les médias auraient dû relayer sans vergogne. Mais tout est millimétré, aucune émotion de fuite et aucun humain gênant n'aura le courage d'affronter le régiment de sécurité déployé. Notons au passage qu'Yann Éric Ciotti qui est rigolard, qui s'est fait prendre en photo avec des agriculteurs de la FNSEA, une banderole vantant la culture de la betterave pour le sucre et l'éthanol. Vous savez, le carburant que si on faisait autre chose avec les terres, on boufferait. Eh ben non, là, on va pas râler comme les méthaniseurs qui pourraient fonctionner à la betterave, etc. Bref, les méthaniseurs, on en parlera plus tard. Mais finalement, il reste une question. Qu'est-ce qui fait qu'on nous montre encore ces images, des années après l'autre? C'est parce que les agriculteurs, c'est une manne de vote considérable? Ben non. Plus maintenant. L'industrialisation de l'agriculture fait qu'il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs. Peut-être que les politiques... c'est pour la bouffe qu'on nous montre tout ça. Parce que les politiques ont quand même les moyens de pouvoir manger sans aller gratter dans des stands hein, pour pas crever la dalle. Alors que les pauvres, eux, ils pourront pas payer les 15 euros d'entrée au salon. Alors non, c'est pas pour la bouffe. C'est pour défendre l'agriculture ? Bah ouais, si on aime les OGM, les pesticides, les tracteurs et tout ça. Alors pourquoi on l'aime le salon ? Ben pour l'image qu'il donne, pour la forme plutôt que le fond. Et tout ça, c'est grâce aux animaux. Pour nos élites si loin de la réalité rurale et de son peuple, pour que eux, ils puissent donner l'impression qu'il est proche quand même du monde. Les animaux, leur image d'innocence et de pureté, les rendent si sympathiques et les rendent sympas, ceux qui les touchent, les portent, sans même leur demander leur avis, sans même avoir une seule once de consentement. Le salon de l'agriculture, c'est donc ça, avoir l'air sympa, bouffer du pâté, boire du rouge, taper des culs de vache, etc. Donc quand même, j'ai oublié un peu l'objectif de ma chronique, les silencieux de ce spectacle, les animaux, qui eux peuvent pas parler de la souffrance animale qu'ils subissent, hein, voilà. Mais bon, merde, les médias m'ont happé. Pourtant, on le voit bien sur les images de la téloche, hein, obligés de vivre entassés, sous lumière artificielle, attachés courts, pas toujours dans leur fiente, ligotés, jugés, passés à la moulinette à saucisses, à concours de bestiaux, ils reçoivent des flashs d'appareils photo du matin au soir, sont obligés de sentir nos sales odeurs d'humains, de se faire toucher le cul du matin au soir, etc. J'en passe des horreurs. Et si les politiques parlent beaucoup trop durant ces salons, les animaux, eux, on les entend pas. Pourtant, ils souffrent, et ça, tout le monde s'en tape. D'ailleurs, au sujet des animaux qui souffrent, je voudrais faire une petite dédicace à Emma, une vache. Une vache de 2014. Vous savez, la vache Emma qui a pris le chemin de l'abattoir, mais auparavant, alors elle valait 7100 balles, la vache, 7100 euros, et les gens qui l'ont achetée, ben, ils se sont dit, bah, c'est à passer chez nous. Les gens qui l'ont achetée, c'est des gens qui avaient des restaurants à Feita, dans le haut de Vienne. Les nouveaux propriétaires voulaient voir Emma, voulaient présenter Emma à leur équipe avant qu'elle revienne dans l'assiette. Sympa pour la vache. Enfin bon, finissons avec une citation de José Bové qui résume bien la situation de tout ça. Hein. C'est pas en tapant sur le cul des vaches qu'on va défendre l'agriculture.
Bien du José.
Elle est pas mal celle-là. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, grosse compassion pour les animaux pendant cette période.
Oh là là, le calvaire. Tu m'étonnes.
Déjà, tu passes 10 minutes, c'est que des néons partout, t'as mal aux yeux, à la tête et tout. C'est l'horreur, le salon de l'agriculture.
Ouais, parce que j'allais dire, pour un humain, déjà, bon.
Déjà, pour un humain, c'est dur, mais.
Vraiment ouais, pas beaucoup s'aimer. Hein.
Les pauvres bêtes. Ouais. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette image. Tellement pathétique de notre président de la République oser à peine toucher le museau de cette pauvre vache comme si elle avait la peste et la yale. Non mais franchement
alors qu'ils vont la bouffer plus tard.
Malheureusement le ridicule ne tue pas.
Mais... bon, après tout ça, c'est le moment de faire le flash info.
Ouais, donc du coup, aujourd'hui, c'est moi qui me tape le flash info. Et c'est génial, c'est une responsabilité, je te dis pas, tu vois. Bon, bah alors du coup, ouais, cette semaine, l'actu, bah écoute, comme d'hab, hein, ni drôle, ni rien d'ailleurs. Sauf quand même ces deux, trois trucs que j'ai relevés qui donnent froid au dos.
L'actu, si elle est drôle, ouais. C'est grâce à nous, hein, sinon en soi, je veux dire, intrinsèquement...
Ah oui, l'actu, non, y a rien de drôle. Bah surtout là, ce que j'ai relevé, il y a quand même un mois, le rapport de la Fondation Abbé Pierre révélait que la
Fondation
France...
qui
Abbé Pierre révélait que la France compte 330 000 sans-abri, c'est-à-dire 30 000 de plus qu'en 2022. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Voilà, 4 millions de personnes sont mal logées et 12,1 millions de personnes sont touchées par le mal logement. Donc c'est pas mal, hein. On progresse.
Ah mais il avait dit personne à la rue, non? C'est ça, à la, ouais, fin, ça, à la fin de son premier mandat, il n'y avait plus personne à la rue.
Il parlait des manifestants.
Dans un cas comme dans l'autre. Hein. C'est un peu comme Chirac qui voulait se baigner dans la Seine aussi. Non,
voilà, c'est ça, ouais, on l'a jamais vu traverser.
Ces gens-là, une imagination de ouf.
Ouais, donc c'est sûr, voilà, les chiffres parlent. Alors ensuite, deuxième petite brève, hyper rigolote celle-là aussi. Trois fois plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire en 10 ans. Pas mal, triplé en 10 ans. Deux fois plus de sans-abri en 10 ans aussi. Une situation qui ne va pas s'améliorer. Sur 2023, l'inflation sur l'alimentation représentera un surcoût moyen de 790 euros pour faire les mêmes courses qu'en 2021. Ah, messieurs, vos porte-monnaies. Donc, c'est sûr que ça rassure hein, quand tu lis des trucs comme ça. Hein. Franchement, William, je me sens mieux. Ouais, on s'en soulageait. On se dit putain.
Mais déjà, quand j'ai su que c'était quoi, il nous manquait tous que 65 euros à la fin du mois pour pouvoir bouffer tranquille.
Oui, mais moi, ça va, ouais. Après, par contre, moi, il me manque 1400 euros pour pouvoir me droguer un peu mieux. J'aimerais bien aussi. Mm-hmm. Il me manque 2000 balles pour pouvoir me saper.
Si t'aurais pas aussi 350-400 balles pour le loyer.
Je peux donner plein de chiffres à la con comme ça. Quoi. Il me manque 30 balles pour acheter les clopes.
Ouais, voilà. Alors tout à l'heure, tu parlais, du salon de l'agriculture et de ce militant qui s'est fait interpeller hyper violemment, qui demandait rien.
Il avait qu'à avoir une coiffure comme tout le monde, les cheveux en brosse, bien rasés sur les côtés.
Il avait les cheveux un peu longs.
Il a tendu la perche. Hein.
Voilà.
Alors, je suis tombé sur un truc assez rigolo. En gros, c'est sûr qu'entre la théorie et la pratique, quand tu fais du service d'ordre, ça n'a rien à voir, quoi, parce que la théorie elle est belle, mais alors la pratique de ce qu'on a vu, laisse tomber, quoi, le mec.
Ouais, mais attends, c'est vrai qu'en même temps, au niveau opérationnel, on n'est pas nous à même de comprendre exactement.
Ouais, c'est ça. Alors, je vous lis quand même en deux, trois petites phrases, quand même, la théorie d'un service d'ordre comme il se doit. Et là, c'est sûr que là, tu vois que vraiment, il y a un gros décalage entre ce qu'ils apprennent dans les écoles et puis la pratique du terrain, quoi. Donc, je résume. À un tel niveau de maîtrise, on ne peut pas détecter les mouvements subtils de l'individu. À un tel niveau de maîtrise, on ne peut pas détecter les mouvements subtils. L'individu est maîtrisé sans que la foule s'en aperçoive. Une graduation fine de la force, des gestes fluides avec une application complexe de la biomécanique, une désescalade à trois niveaux simultanés, verbal, paraverbal et non-verbal, parachevée par la conduite immédiate de l'individu hors du cadre critique. Un exemple de ce que ces professionnels de très haut niveau sont capables. On a eu des images. Il faut qu'ils révisent un peu quand même. Donc ça m'a fait sourire, mais jaune évidemment. Voilà, donc ça c'était pour la petite boutade. Et puis quand même, je pouvais pas non plus finir ces brèves sans parler du 50e anniversaire de la sortie de l'album mythique des Pink Floyd, Dark Side of the Moon, qui a 50 ans aujourd'hui. Qui n'a pas pris une ride, on peut le dire, mixé par Alan Person, donc le génie du son, et quand même 50 millions d'albums vendus dans le monde, ce qui est quand même pas mal pour une sortie en 73 aux États-Unis.
Ah, c'est quand même un des meilleurs albums qui fait rêver la moitié de la.
Dark Side of the Moon, Monet, le titre
ouais.
Monet.
Qui l'a
pas entendu ce truc, tu vois, c'est assez phénoménal.
C'est l'anniversaire de la sortie du duo Nick Cave et PJ Harvey, Henry Lee aussi. C'est à peu près le même jour, le même jour, mais pas la même année.
Et c'est vrai qu'il y a plein de dates d'anniversaire. Il y a le 2 mars, c'était l'anniversaire de mon idole irlandaise, Rory Gallagher.
C'est l'anniversaire aussi de ma nièce.
Ah bah voilà, mais ça je l'ai
elle
pas
fait
vu
de la guitare
sur Twitter. Voilà, donc oui, il y a des anniversaires, heureusement, ça donne un peu de baume au cœur de voir qu'il reste quand même des albums sublimes à écouter.
Bon, on se fait une petite virgule musicale, une petite pause, une musique salon d'agriculture et on passe à la suite.
Ouais.
Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis du foin, elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux.
Me font les vaches, les vaches font me.
Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver. La chef des mouches suit la chef des vaches. Le bouseux ouvre les portes pour brouter, c'est leur hache.
Me font les vaches, les vaches font me.
Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les trailleuses sont branchées, c'est la fin de la journée.
Chip chip font les machines font chip chip. Me font les vaches font me.
On ne traite pas les mouches, car elles n'ont pas de lait. Et puis que les trailleuses, ça ne s'est pas volé. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc, et puis bon appétit.
Vous êtes toujours à l'écoute de Ça va bien se passer sur Antenne Doc et il a présentant de faire la chronique du maréchal feignant.
Ben oui, mais il est temps de se réveiller là, bande de feignasses. C'est quoi? C'est en train de nous parler de trucs de bouseux.
C'est vendredi. C'est vendredi.
Ben non, mais il n'y a pas de vendredi qui tienne. Tu nous parles salon de l'agriculture, on nous parle machin truc.
Souffrance animale, les informations.
Souffrance animale, j'en ai à foutre, moi, que les blaireaux souffrent ou même les vaches. Les vaches, ça fait un peu trop longtemps qu'on les insémine artificiellement, elles feront jamais des chats. Bref, moi je suis en train de vous dire qu'il y a la guerre aux portes du pays. Oh. Ça vous interloque pas un peu, quoi. Ça vous fait pas.
Ça fait deux fois qu'on nous parle
deux
de
fois
la guerre.
Qu'il y a la guerre. Hein.
Non, mais c'est. Il avait raison, Macron, quand il disait Ah, c'est la guerre qui déclarait.
Eh ben oui, mais c'est qu'il l'avait senti en lui-même parce qu'il est compétent, notre président. Bah.
Ah. Bah,
toujours à toi de voir le mal partout, d'essayer d'interpréter sa divine parole. Bref. Tout ça pour dire que moi, ça m'angoisse. Je veux dire, j'ai une gamine, j'ai une vie. Et avoir la guerre aux portes de mon pays, ben, ça me fait flipper. Et je me suis dit, j'essaie quand même de trouver des solutions. L'important, c'est pas que d'y penser, c'est de trouver des solutions. Et je me suis dit, pourquoi les Chinois? Pourquoi ça serait pas les Chinois? Pourquoi ce serait pas les Chinois qui, avec leur puissance économique, leur puissance militaire, leur puissance diplomatique, viendraient essayer de régler ce conflit, d'intervenir au moment idoine pour apaiser un petit peu tout le monde, parce que tout le monde commence à devenir complètement taré. Par contre, je me suis renseigné un petit peu sur le chinois. Et alors évidemment, comme je suis un gauchiste, le premier truc qui m'a choqué, c'est cette espèce de nouveau racisme anti-chinois déjà. Alors que je vois pas, justement, alors qu'ils sont plutôt une porte ouverte vers l'avenir, hein, malgré les fermes-usines et les mines de lithium. Mais quand même. Et du coup, ça m'a inspiré un petit texte, parce que quand je me suis un petit peu renseigné sur le chinois, qu'est-ce que le chinois intrinsèquement? Pourquoi avons-nous peur du chinois? Pourquoi le chinois est autant? Voilà.
Ça, c'est une bonne question.
Mais pourquoi le chinois est autant?
Je vais vous expliquer. J'ai essayé de faire un petit truc, on va dire, c'est un peu de l'anthropologie, voilà. Le chinois est une merveille de technologie. À croire qu'il n'est pas l'œuvre du créateur, mais c'est tellement le fruit de l'imagination machiavélique du malin. Ses ongles sont cruciformes, sa mâchoire aussi puissante qu'un cerf-joint, sa peau sécrète un film organique jaunâtre qui le protège de toutes sortes de radiations intempestives et de la nourriture épicée. Son encéphale, quoique restreint... Pardon.
Attends. J'arrive.
Attends. Putain, il y a du vent dans le...
On a des galères techniques. Prends le micro à côté de toi.
Le vent... Tu quoi?
Prends le micro à côté de toi.
Comment ça? Celui-là?
Ouais.
Tu veux que je prenne... Comme ça?
Ouais, voilà. Hop là.
Je recommence?
Le vent.
je recommence à quand?
Recommence à quand? Recommence à quand
de
tu veux.
Et c'est raciste du début à la fin, donc je peux recommencer dès le début. Non, voilà. Donc oui, voilà, je parlais de ce racisme un petit peu anti-chinois qui m'a inspiré ce texte. Voilà. Si votre cerveau le permet, vous le prendrez au je sais pas combien de degré. Le chinois est une merveille de technologie. À croire qu'il n'est pas l'œuvre du malin, mais certainement le fruit de l'imagination pas l'œuvre du créateur, mais certainement le fruit de l'imagination machiavélique du malin. Ses ongles sont cruciformes, sa mâchoire aussi puissante qu'un cerf-joint, sa peau sécrète un film jaunâtre qui le protège de toutes sortes de radiations intempestives et de la nourriture épicée. Son encéphale, quoique restreint, contient un unique chromosome composé d'un cadre traversé de boules en enfilade qui lui permettent de compter et de communiquer par télépathie avec ses congénères. Le chinois est doté d'un fémur télescopique. Sa position assise est en conséquence possible sans aucun support d'appui, ce qui augmente la compétitivité de ses ateliers de couture qui n'ont pas à investir dans des chaises. L'extensibilité fémorale facilite également l'élévation de lourdes charges. Un sens du rythme inné et une dextérité hors norme optimisée par la forme fine et allongée de ses doigts, 32 cm pour 7 phalanges, lui donne une formidable rapidité d'exécution des Tibétains et d'autres tâches répétitives. Cela rend par contre son écriture totalement illisible, excepté pour un autre chinois. Alors pour ce qui est de ses capacités reproductrices, il est pourvu d'un minuscule mandarin à percussion, ou bituscule, long d'à peine un demi-chibre sur l'échelle de Tom Jones. N'oublions pas que l'espèce ne comportant pas de femelle, le chinois peut donc consacrer beaucoup plus de temps à sa vie professionnelle et beaucoup moins à séduire et copuler. Les saillies sont rares, mais les portées sont lourdes. Le chinois est beaucoup, beaucoup trop. Ainsi, pour réguler leur population, les Chinois sont autorisés à se nourrir de leur propre progéniture. Le soja, par un décret de 1873, élargit ce droit aux animaux domestiques et aux créatures douces, mignonnes et innocentes, ainsi qu'aux lapins. Hormis celle du travail mal fait et celle du riz, le Chinois n'a que peu de culture. On note cependant qu'une certaine production cinématographique qui reste toutefois inaccessible aux spectateurs occidentaux, en effet, il nous est très difficile de différencier un individu chinois d'un autre, tant ils se ressemblent, exception faite de Bruce Lee et de Gandhi.
Non, il n'est pas là, Gandhi.
Il n'est pas chinois, on pense. De plus, le chinois n'est doté que d'une seule expression faciale. Interprétée à tort, elle fut fatale, selon les historiens, à Marco Polo. Les spécialistes estiment que même une série de frappes nucléaires tactiques sur son territoire ne saurait venir à bout du chinois. En effet, son peuple est de loin, celui qui est le plus diffusé hors de son habitat naturel. 830 millions de Chinois vivent en dehors des frontières de leur contrée. Nous devons donc nous accoutumer du fait qu'il nous incombe de les traiter aujourd'hui comme à l'avenir, avec toute la déférence qui leur est due. Voilà.
Moi, ça me rappelle quand même un truc, ce que je viens d'entendre, hein, quelque chose qui manque finalement. On peut rassurer du coup cet auditeur qui craignait que nous ne soyons pas dotés ni de main droite, ni de pied droit, ni de rien de droit. si tu nous écoutes cette semaine, eh ben, tu vois qu'en fait, nous sommes dotés aussi d'une droiture de notre côté. Et du coup, quitte à parler de droiture et de chinois, il vous manque pas, Michel Leb, ça vous manque pas ce sale humour raciste comme on avait le droit de faire
bien,
à l'époque.
Moi,
ces vieux
bien.
Accents pourris, bien graves.
Un buffet, c'est pour un buffet, ouais, bon, ouais. Okay.
Non, ça ne manque pas en fait.
Non, c'est bon. Mais je sais pas ce qu'il vient. Bah, je pense qu'il est pas mort. Il faut savoir que ce mec était prof de philo à la base.
Non.
Comment il s'est
mais
démerdé.
N'importe qui peut être
le
prof,
mec il s'est coltiné tout Schopenhauer et après il était là hey, bamboulat. Non mais ça restera un mystère un petit peu comme les pyramides ou les trucs comme ça.
C'est un drôle de mystère.
Ouais. On n'ira pas enquêter, ça c'est bon.
On n'ira pas enquêter. Alors que ça toi cette semaine ta chronique qu'est-ce que tu as
rien sur les Portugais. Oh merde alors.
Non mais zut. Ah mince, ah oui, attends, c'est tout à l'heure, il y avait un, avion tout
ouais.
à l'heure, alors j'étais obligé de... Pardon.
Oui, le Portugal, j'en ai parlé deux fois, oui, c'est vrai, il se passe pas tout le temps des trucs là-bas non plus, il s'en passe moins qu'ici en tout cas, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, ma chronique, en fait, je l'ai pas dit en arrivant, mais je vous l'ai pas dit, j'ai pas posé de préavis, mais en fait, je suis en préavis de grève, en fait, je suis en grève du rire.
Tu bosses pas.
Tu as arrêté de te marrer?
Ouais, je suis en grève du rire, donc, parce que bon, on parle du 7 mars. Le 7 mars, c'est bientôt.
C'est lundi.
Je me suis dit, putain,
regarde, c'est dangereux le 7 mars. C'est dangereux la grève.
Comment je vais marquer le coup? Et je me dis, bon, allez, je me mets en grève du rire. On verra s'ils vont pleurer, quoi, pour une fois. Si ça marche bien ou pas. Mais... Donc, l'actu cette semaine, c'est sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, il n'y a rien de très drôle. Si, le coup du salon de l'agriculture avec les vaches, ça m'a fait rire. Merci, William. Ça m'a remonté le moral. Comme quoi, il en faut peu.
C'est vrai que Macron face à une vache, c'est un peu comme c'est un marsouin devant les tableaux de la loi, tu vois. Il aimait,
j'ai presque envie de dire
rien.
Une simple vache m'émeut, quoi. Donc aujourd'hui, je suis en grève du rire, bien
t'as
sûr.
T'as bouffé Michel Leb ce matin.
Voilà, je m'entraîne pour le 7 mars prochain et pour la suite des événements, parce qu'on ne sait pas si ça va être reconductible. Donc attendez-vous à ce que je fasse la gueule maintenant le vendredi, jusqu'à ce qu'on débloque la situation, tu vois. Bah oui, parce que franchement... Donc je me dis que tu m'en tiendrais pas rigueur si je suis un peu en grève du rire aujourd'hui.
Non.
Après,
non.
Je compte sur...
Tu veux dire que tu vas pas être drôle?
Par contre, t'as conscience quand même que pour ta retraite, tu vas moins te marrer du coup, parce que tu vas arrêter de cotiser.
Là, c'est sûr, ils vont pomper de la thune, là, ça c'est évident. Hein. Putain, je perds. Enfin bref, en plus, tu vois, quand tu vois Joe, tu vois, là, j'ai rien dit, hein, tu vois, notre boss, notre patron, notre
lui-même.
Mentor.
C'est un patron, hein.
Notre mentor qui se casse en vacances, en fait, pour fuir la guerre.
Ben ouais, mais c'est un patron.
Eh ben, sans vergogne, en plus, tu vois, franchement, il y a de quoi déclamer haut et fort, stop au rire. Franchement, faut arrêter de déconner, quoi. Bon, allez, je me lance aujourd'hui sur ce billet.
Malgré, j'avoue, mon manque d'inspiration, faute de belle actu, a provoqué le rire et la rigolade en moi.
C'est
donc forcément, voilà, donc forcément pour vous aussi, chers auditeurs, parce que c'est contagieux. Quoique, bande de pervers gauchos que vous êtes bien capables de rire de tout et de n'importe quoi.
Bah rien, on a même rigolé avec des Chinois.
C'est pas mon genre.
Bande de scélérats rouges, radis même. À peine j'ai esquissé un petit sourire intérieur, et encore, en écoutant la dernière d'Olivier Véran, Varan de Komodo. Ah ouais, vous savez ce que c'est que le Varan de Komodo?
Ouais.
Ouais, c'est une grosse bestiole qui habite à Komodo.
C'est une grosse bestiole qui fait peur. Et je trouvais que Véran, le jeu de mots, bon, un peu pompeux, mais je trouve que ça lui va bien. Tu sais, c'est le mec vraiment qui te boufferait tout cru, en fait. Hein.
Olivier Véran.
Même des cadavres, ce mec-là, j'en suis sûr. Quoi. Enfin bon, d'ailleurs.
Comme les Chinois. Ouais, ouais. Toi, avec mon chinois, je n'avais pas complètement tort. Non.
Faut dire que Joe, il a quand même pondu un dessin sur cette histoire d'Olivier Véran qui était en train de nous déclarer la fin du monde en direct live et nous accuser quoi nous de pomper toute l'eau de causer la famine.
Franchement c'est
Barjavel, il nous l'a fait en direct, je sais pas, il venait de lire le livre.
Si j'avais un cul, je me le taperais par terre, quoi.
Enfin bon, pathétique quand même cet acteur, hein, Olivier Véran, hein, dans le rôle de l'imposteur. Qu'il est mauvais ce traître, ce pandard, cet azel, démasquer l'abject sournois. Décidément, ils ont un problème au ministère de la Santé pour le recrutement. Hein. Après Buzyn, punaise, elle et lui, nom d'un zoubizouba, mais quelle tuile pour la santé, tu vois. On s'est tapé Buzyn et Véran, tu vois. Et puis, il faut voir comment ils sont ressortis, quoi. Je sais pas, mais à mon avis, il se passe des trucs au ministère de la Santé, tu vois.
Bref, je vois la tête du dernier ministre.
Ouais.
Je suis pas plus rassuré.
À mon avis, ils mettent des cons dans tous les ministères dont ils se foutent, quoi. Voilà. La santé en premier.
Alors, du coup, ça fait quand même un moment que je cherche à qui ce type me fait penser, Olivier Véran. Je savais bien qu'il ressemblait à un acteur, mais lequel? Tu vois, j'avais ça dans ma tête, mais je me disais, putain, pas possible de trouver lequel.
Le mec qui joue Gollum dans Le Seigneur des Anneaux?
Non. Mieux, bien plus véridique.
John Everhard dans Anal Invasion 4. Non, non.
Ah, ça, je sais pas, je l'ai pas vu encore.
Je te montrerai.
Bon, et c'est par hasard que j'ai eu enfin la réponse en cherchant vainement un film à regarder pour m'endormir et sombrer sur Morphée. Et ce film, c'est Fargo.
Ah, magnifique.
Tu l'as pas vu?
Non, moi je ne l'ai pas vu.
Alors là, je te le conseille.
Ah,
c'est
je me souviens plus du blaze des acteurs.
Alors là, les acteurs, en fait, le plus connu, c'est.
Olivier Véran.
Non, c'est celui qui. Comment il s'appelle?
Oliver Véran.
Oh, bon, ça me reviendra, je vous le dirai. Mais enfin, c'est un film à voir. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, c'est une enquête policière, mais un peu tragico-comique, parce qu'il se passe des trucs complètement ouf dans le film. Et puis, alors, le scénario, il part en live total, tu vois. Et en gros, pour vous situer. Voilà, en fait, celui qui ressemble à Olivier Véran, mais même physiquement, et qui a le rôle, mais du parfait psychopathe dans le film, c'est l'acteur William Massey, qui est excellent, et qui joue donc le rôle du personnage de Jerry Lundegaard. Bon, je vous raconte pas le film, franchement, faut le voir, mais ceux qui l'ont vu, à mon avis, ils font l'analogie entre le. Je sais pas si tu te souviens.
Je me souviens plus de sa gueule, c'est pour ça que je suis en train de chercher, mais j'arrive pas à voir sa tronche.
Une gueule d'antipathique, de sournois, de souriant.
C'est vrai qu'il a pas grand chose pour lui, Olivier Véran. Ah, hein, c'est vraiment.
Et j'ai trouvé, et physiquement, l'acteur lui ressemble. Donc,
entre le cuisse, le pleutre et la fouine, enfin, c'est costaud quand même.
C'est spécial, c'est à la mission de secrétaire d'État. On se rappelle Gabriel Attal juste avant, il faisait le même effet en pire.
Faut dire que le film a été réalisé par les frères Cohen quand même. Hein. Donc voilà, une grosse réussite. Voilà. Ah oui, voilà, l'acteur connu, c'est Steve Buscemi.
Ah, Steve Buscemi, ouais, excellent.
Il est génial ce mec.
Il est dans pas mal de films.
Il joue dans
Cohen,
plein de films avec les frères Cohen et tout. Mais là, le rôle qu'il a dans le film, et ça lui colle à la peau, mais c'est monumental. Donc vraiment un bon film qui fait passer.
Donc si on a envie d'un peu plus d'Olivier Véran, on regarde Fargo.
Voilà, si tu veux un peu voir Olivier Véran, le vrai. Si tu veux démasquer.
Des fois qu'il nous manque un peu.
Voilà, si tu veux démasquer le vrai profil d'Olivier, va voir Fargo et là tu vas comprendre. Notre douleur, quoi, tu vois. Donc alors le film, ça se passe dans le Minnesota en plein hiver, alors je te dis pas un froid glacial, on a donc dans le rôle principal un grand psychopathe, donc entouré de grands psychopathes, le tout dans un scénario teinté à la Pulp Fiction,
écrit par des grands psychopathes.
Voilà, c'est dire que tout part en live dans tous les sens tout le long de l'histoire. Voilà. Sans vous raconter le film en détail, le profil de Véran collerait trop bien avec le personnage de Jerry Lundegaard. Et en plus, il y a carrément un air de ressemblance physique, quoi. Je laisse la surprise à ceux qui n'ont pas vu le film, mais pour les autres qui connaissent déjà, je suis sûr qu'ils savent de quoi je parle. Et c'est beau, et c'est pas beau du tout. Voilà pour mon coup de gueule sur ce Véran véreux. Rien à rajouter pour lui.
Voilà. Ah, tu sais, moi j'ai des petites choses quand même à rajouter sur Véran,
ah oui,
en bah, passage.
Bah,
quand bah, quand même, parce que.
Vu la tartine qu'il nous a mis, hein, l'autre, il nous
moi
a
je me suis marré cette semaine.
Triple kebab, double burger.
Alors, justement, alors là, tu veux tout, salade, tomate, oignon, la sauce.
Ouais, ouais, vas-y, on voit la totale, ouais.
Mettre la France à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. Voilà, donc
ouais,
déjà,
ouais, ouais,
le 7 mars, vous savez, les gars, c'est dangereux, mais
ouais,
c'est la fin du monde après.
La fin du monde en France, ouais.
Non, non, mais alors la catastrophe sanitaire. Alors, est-ce que vous pensez qu'il fait référence à l'état de l'hôpital public qu'il a arrêté de financer, qu'effectivement, on est dans une catastrophe sanitaire parce qu'on ne peut pas soigner les gens dignement?
C'est clair qu'il y a de bonnes raisons de flipper. Après, qu'il en soit conscient et que ce soit à ça qu'il fasse référence, ça, je dubite.
Ah ouais, mais,
c'est toujours de placer bite dans l'émission.
Non, non, mais oui, j'avais bien compris, c'est le jeu de pas
là, elle était là, la feuve.
Non, mais je voulais pas rebondir sur la bite, moi,
c'est
en fait.
Désolé, autant pour moi.
Bref. Alors, il a parlé aussi d'une catastrophe agricole. Mais peut-être qu'il veut parler de l'état des subventions qu'on donne à la bio, de la famine des agriculteurs, de tous ceux qui ont tout perdu les thunes, tout ça. C'est ça qu'il parlait, vous croyez?
Bah,
Non, pas du tout.
Non, parce que peut-être qu'il est devenu conscient, quoi. On s'imagine pas, quoi, en fait. Peut-être d'un seul coup, je paf, comme dans la belle verte, là, il avait quelqu'un. Il parle aussi d'une catastrophe écologique. Et peut-être qu'il, pareil, il parle de, en fait, de la connerie de faire de nouvelles centrales nucléaires bientôt et tout, qu'il est en train de s'alarmer en disant que. Ouais, non.
Peut-être qu'on l'a mal compris, en fait. Hein.
Non, mais c'était pas ça, il parlait de la grève. Il a même été, quand même, à faire des associations d'idées. À un moment donné, je sais pas qui c'est qui a pris de la drogue, si c'est lui ou le mec qui a écrit son discours. Parce que faire la grève le 7 mars, mettre le pays à l'arrêt, ce serait favoriser le papillomavirus en France.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. J'ai
non, mais
ça,
faire, parce qu'il ne pleut pas, c'est dangereux de
les
faire
les gens
la
font
grève.
La grève pour pouvoir aller tirer des coups. C'est quoi l'histoire?
Je sais pas ce qu'il disait. Ouais. Il a commencé. Étant donné qu'il ne pleut pas assez en France, faire la grève provoquerait une catastrophe écologique.
Ouais, mais attends, mais par syllogisme, du coup, s'il pleut pas trop, ça profite au papillomavirus.
Ouais. Ouais. Je sais pas où il a été chercher le lien de cause à effet, mais c'est
non. Je trouve qu'il a été, mais il a été incroyable.
Je sais pas.
Bon, bref, en fait, il faut un peu un service minimum en ce moment. Eux aussi sont en grève, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il a dit, je vais dire n'importe quoi, je vais voir si les gens réagissent. Ben non, les gens ont applaudi. Preuve quand même que nous sommes en belle harmonie dans notre petit monde. Preuve que, en fait, tout va très bien.
Ah, moi, pour avoir écouté la séquence avec toi, j'ai toujours pas. J'ai beau essayer de faire une exégèse de cette espèce de poésie psychédélique, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Hein. Moi, j'ai rien vu de politique dedans. Oui, bon, c'est non, mais pourquoi pas. Hein. Olivier Morrison.
Je sais pas. Peut-être qu'il est devenu. Voilà. On est devenu. Parce qu'on atteint l'état d'harmonie, vous croyez peut-être. C'est ça, il devient conscient.
Mais oui. Longtemps, il a quand même incarné un peu ce.
Cet état harmonieux.
Ouais, cet état harmonieux. Cet état harmonieux de la Macronie.
Ah. Oh.
Oui. Puisqu'en Macronie. En Macronie, pardon. Tout est harmonieux. La Macronie, tu connais? Tu connais pas? On a quelqu'un dans le studio, elle a pas l'air que. Tu connais? La Macronie. Dans un recoin paisible de l'histoire de France, règne l'harmonie en Macronie. Si tu veux y aller, je te prends par la main et je t'emmène.
Ah oh, oui, je veux venir.
C'est le pays des startups qui bossent dans la magie d'un open space feng shui. En même temps yin et en même temps yang, Emmanuel Macron veille en sage sur l'équilibre. Car, comme il le prêche lui-même, dans sa grande sagesse, Emmanuel.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout pour gagner ce que je veux. Parce que c'est notre projet.
Emmanuel,
vive la République!
Je t'aime.
Vive la France!
Voilà une classe qui se.
En Macronie, tout le monde est calme. En Macronie.
Voilà une classe qui se tient sage.
Dégage, arrêtez.
Voilà, en Macronie. En Macronie, on parle calmement, on dialogue, on échange, dans la sérénité, en profondeur. En Macronie, on n'aime pas la haine.
Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches.
Mesdames et messieurs.
En Macronie. Et quel âge de la vie, sinon la retraite, nous amène à rejoindre, nous tous ensemble, le calme macronien, puisque le calme de l'Olympe, Jupiter, enfin Zeus, Bouddha, enfin je sais plus, parce que de toute façon, en même temps, on parle d'un Macron qui est président des Français, qui est persuadé que la Guyane, c'est une île. Donc on n'est pas un dieu près. En Macronie, pardon. Pour apporter au peuple son message de paix sur les retraites, le Dalaï Macron a envoyé l'émissaire du SOPT, lui-même chantre de la paix, qu'elle soit intérieure ou sociale. D'ailleurs, lui-même, de nous rappeler qu'en Macronie...
Mesdames et messieurs, personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme!
Et oui, ceci était un message du ministère de la Beauté intérieure. Car ne vous inquiétez pas, vous êtes en Macronie. Et ça va bien se passer.
Non mais vous vexez pas, calmez-vous, non mais calmez-vous, ça va bien se passer. Il va bien se passer.
Et... Ça fait du bien un peu de calme dans ce monde de brut.
Oh, ah, merci pour cette pause, on est bien en Macronie.
On est mieux tout à coup.
Ah, je me sens mieux. Ah, j'ai l'impression d'entendre quand on préparait un peu sur la réforme des retraites... Avec la personne qui dirigeait les discussions qui disait « Ouvrez vos chakras, taisez-vous, bordel de merde !»
On vous encule tous.
Non, véridique. Ouvrez vos chakras, taisez-vous, véridique.
Tu vas les ouvrir, tes chakras de merde.
Oui. Bon, maintenant qu'on a les chakras bien ouverts...
Voilà. On va pouvoir écouter la suite.
Écoutons la suite de ce programme.
La suite, ouvrez vos chakras, c'est une triste nouvelle qui est tombée, mais vraiment triste, et là je suis vraiment sérieux.
Merde alors.
Une nouvelle, tu vois, qui est arrivée sur mon écran d'ordi, qui a déchiré l'écran en deux et qui m'a déchiré aussi. Ça a été la disparition de notre boucher préféré.
Ah merde, ah oui.
Mais oui. Notre profil, notre boucher préféré au profil gras et ingrat, faut dire. Mmh. Mais assurément, au cœur tendre, derrière ce regard quelque peu ténébreux qu'il avait. Voilà, l'icône française du punk rock et de la musique populaire alternative. Le papa du bar tabac de la rue des Martyrs et des petites cuillères percées des chiottes innomades de Paname. À lui tout seul, il a su réhabiliter la baguette de pain avec les bas-fonds sordides parisiens. Le coq avec la tête de veau. Le punk avec les Gaulois, les putains du quartier Pigalle avec la soupe aux choux, l'accordéon avec le métal hurlant, la terrine de porc avec le son féerique de la harpe. La classe, non? Franchement, la classe pour réussir à faire ça. Non, mais sérieux, quoi. Je veux dire. Fallait le faire, cette tambouille boucheresque. Fallait la faire, cette tambouille. Oui, François, Hadji Lazaro, le viandard de Pigalle, pilier de l'underground et de la scène alternative, s'en est allé aussi vite comme à son arrivée sur la scène... du rock français. Voilà, sans fleurs, ni couronne, c'était pas son genre. Lui, avec sa boucherie production, son propre label, il a su aller à contre-courant, du business, de la musique et des maisons de disques, sachant dire non, sachant dire fuck, le majeur bandant comme étendoire. Bref, notre Johnny Rotten franchouillard à souhait, qui jouait aussi bien du biniou que du saxo, de la guitare que du banjo, de la hachette que du couteau, définitivement construit les piliers de la culture musicale sous-sol et hors-sol de la scène française, Punk Not Dead.
Ouais, merci, ça fait plaisir. En plus d'être le père de plein d'albums de savoir jouer 17 instruments,
quoi. Multi-instruments.
C'est le père de la question que je me pose à peu près tous les matins. La bière, mais qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la bière?
Et précisons aussi quand même qu'il a fait des choses pour les enfants. Mais qui sont loin d'être idiotes aussi,
pareil.
C'est
vrai, ouais.
Sa proposition jeune public, en fait, était...
du cinéma.
Cinéma, ouais, il a produit des trucs aussi. Il a fait plein de trucs, ouais.
Eh bien tiens, mais si c'était avec lui...
C'est moi son truc pour les gamins, vas-y, dis, je vous appelle.
Non, allez-y, parlez, parce que moi, j'allais dire au revoir.
Ce que je voulais dire, c'est vrai que les garçons bouchés, moi, j'étais ado quand vraiment ils sont arrivés dans les années 80. Enfin, en tout cas... La Mano, tout ce rock qui est arrivé, le cri de la mouche, les rats.
Ouais, moi ça me faisait rêver, je suis un peu plus jeune, du coup je voyais les grands qui allaient au concert comme comme ça. Voilà. Là,
et il y avait une salle, j'habitais ici les Moulineaux à l'époque, il y avait une salle qui existe toujours, le Fahrenheit, une salle de concert où là j'ai vu vraiment des super groupes à l'époque et les débuts de Petit Bonheur. Qu'est-ce qu'il y avait? Les rats dont j'étais très copain avec le bassiste. C'est le bassiste des rats qui m'a donné le livre de Guy Debord, La Société du Spectacle.
Ah ouais? Ah, excellent.
Et qui m'a dit, oh là là, ce bouquin, il faut le cacher, le montre pas, et tout, c'est hyper subversif, et tout ça. Et donc, c'était, voilà. Donc, ça me rappelle vraiment beaucoup de choses. Et bon, même si j'étais pas ultra fan de François Boucher, c'est un mec, respect pour lui.
Déjà, moi, j'avais fait, je me souviens, le premier que j'avais acheté, c'était en cassette à l'époque. L'album, il s'appelait Alors, trois petits points. Je trouvais ça déjà rigolo, tu sais, d'appeler son album,
alors.
Il y avait un beau morceau qui est qui fait un peu une espèce de prédiction, quoi, un peu prémonitoire, voilà, qui s'appelle Anguille et qui fait Anguille. Ouais. Et ça fait beaucoup, je sais pas pourquoi, la manière dont il chante, penser à Marine Le Pen.
C'est
un espèce de vieux poisson glissant qui schlingue, tu vois. Voilà.
Non, la force de François Boucher, c'est d'avoir réussi à monter son label et d'être vraiment indépendant et d'aller à contre-courant du business de la musique. Et ça emmerdait beaucoup parce que évidemment, on voulait le faire taire.
Maintenant, du coup, il sait ce qu'elle a fait de lui, la bière.
Voilà. Et donc, très beau parcours. Il fallait en parler parce qu'il est mort à 66 ans, apparemment une infection, enfin un truc con.
Quel âge il avait, t'as dit ?
66 ans. Donc il était jeune. Hein.
Ouais. Pour un punk, c'est vieux. Hein.
Donc, on peut encore boire de la bière alors.
Ouais, pour un punk, c'est
avec modération.
Ouais. Voilà.
Et avant de terminer aussi, moi, je voudrais faire un petit conseil cinéma. Parce que ce week-end, on a la chance de pouvoir voir un film dans le Lot. C'est le seul cinéma qui nous passe ce super film. On l'a pas beaucoup vu en France. Hein. Le film en question, c'est Le Marchand de sable de Steve Asciepo. Donc, il passe dimanche soir à 20h30 au cinéma Le Louis Malle à Pressac. Alors, ce film, Le Marchand de sable, c'est un film qui nous parle des marchands de sommeil à Paris. Autour donc des personnes, des migrants, les exilés qui viennent chercher refuge en France, ils savent pas trop où dormir. Et ben, des fois, on essaye de trouver des solutions pour eux et on finit à se retrouver marchand de sommeil. De héros, on devient anti-héros, tout ça. Donc, déjà, ce film, il est génial. Il est monté comme un film d'action, comme un thriller. C'est une espèce de thriller du réel. C'est hyper captivant, c'est incroyable. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'il défend, Steve Asciepo, la personne qui a fait ce film. Hein, parce que moi, j'ai rencontré à Jindou l'an dernier, quand je l'ai vu le film. Et en fait, il défend une notion, la notion du cinéma black. Le black power, voilà, comme à l'américaine, mais en France. Parce qu'en France, on est tous en train de faire dans le monde du cinéma. Oui, mais bon, non, il est noir, on s'en fout, c'est un humain comme moi, c'est mon frère. Mais mes couilles, les gens, hein, franchement. Combien il y a de gens noirs décorés au cinéma? Combien il y a de femmes noires décorées au cinéma? Il n'y en a pas beaucoup. Cette année, on a commencé un petit peu. Hein, il y a quelqu'un, voilà, il y a une qui a reçu une décoration. J'ai un trou de mémoire sur son nom. Alice Diop. Il y a Alice Diop qui a enfin été décorée. Ça fait très longtemps qu'elle fait du cinéma, cette femme. Ça y est, ça commence. Donc oui, c'est chouette de voir en France un film qui parle de noirs. Fait par des noirs, ça parle des noirs qui vivent en France. Il y a 2-3 blancs dans le film parce que oui, ben voilà, les noirs ont leur compte. Ça se passe pas comme pour nous.
Et le film, il est tout noir aussi.
Non, le film, il est pas tout noir.
Mais le film, il y a beaucoup plus d'acteurs récompensés noirs aux États-Unis que ce qu'il y a en Europe.
Ce qu'il y a en France.
Même en Europe.
Et en France, on se cache derrière le politiquement correct. Oui, mais non, on s'en fout. Mais non, dans la réalité. On est bien loin.
Une grosse fracture coloniale.
Sans vouloir vomir sur Omar Sy, hélas, pendant bien longtemps dans le cinéma français, quand on avait besoin d'un noir, comment incarner le noir au cinéma? Bon, on va mettre Omar Sy.
Ouais, puis généralement, le noir, il joue un noir.
Et le noir joue un noir. C'est ça.
Ouais.
Et là, du coup, ça fait du bien de voir quelque chose comme ça. Et c'est Louis Malle de Pressac qui passe ce film. D'accord. Super. Merci à eux d'oser montrer ce film. Dimanche soir à 20h30.
Pardon. Vas-y. Moi, je voulais dire aussi, je sais pas si tu en as déjà parlé dans les infos locales avant, mais
c'est Régis qui est aux infos locales.
On est vendredi, donc demain c'est samedi, et je crois qu'à partir de 14h à Concos, il y a une soirée de soutien à l'imprimerie Trace. Et à l'usine à croquettes. Et voilà, c'est une bonne équipe qui fait de la micro édition, pas si micro que ça. Je crois qu'ils ont besoin d'un peu de soutien. C'est la fin du mois, donc ça fait un peu chier, mais en général, ils organisent des bonnes soirées. Il y a de la bonne musique, il y a de la bonne bouffe, et puis il y a surtout tout leur travail à découvrir. Et bon, voilà.
C'est quand?
Maintenant que j'y pense, c'est demain à partir de 14h, je crois. Mais bon, après, voilà, je pense qu'on peut y aller à l'apéro et ça va être marrant aussi. Quoi.
Et on n'oublie pas mardi.
J'ai pas noté ce qu'il y avait exactement pendant l'événement, mais bon, en général, ils nous font plaisir, quoi.
Et n'oublie pas mardi, 7 février, grève générale. Ouais.
Il faut y aller avant la guerre d'ailleurs. Parce que...
faut y aller
avant
la guerre.
Moi, j'ai commencé mardi 7 février, mais 1998.
Et puis voilà, la semaine prochaine, c'est la guerre, les militaires seront à Cahors, comme l'a dit
Joe. Il va falloir venir avec le casque la semaine prochaine.
Guerre et grève la semaine prochaine, et pour se quitter. Eh bien, justement, à ce qu'il était, tiens, avec Pigalle, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Banzai.
Allez.
Allez, va. Bonne semaine à tous.
Allez, merci.
À la semaine prochaine et soyez rassurés.
Au revoir. Salut.
Ça va bien se passer.
Salut, salut.
Ouais.
Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vides d'égoulement dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. L'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises, y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.